Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes vendredis du mois de 18h, de 17h15 pardon, à 18h pour l'émission À toi les étoiles. J'arrive tout de suite. Voilà, on est là. Alors, je vous explique, en fait, on a eu des petits soucis de téléphone qui viennent de se régler à l'instant. Et comme je fais moi-même la technique, eh bien voilà, on gère le téléphone, on gère la régie, la technique. On est là, en tout cas, il est 17h15. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous pour l'émission Entre chiens et loups, en rubrique À toi les étoiles, comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Le thème de cette émission À toi les étoiles de ce mois de novembre, eh bien, c'est OVNI, la vérité n'est pas forcément ailleurs. Et pour en parler avec nous, je reçois Xavier Passot, qui est auteur. Vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule
J'ai vu un OVNI.
Qui est aux éditions?
Aux éditions de Cherche Midi. Voilà, le sous-titre du livre, c'est Perception.
Le sous-titre? Ah, décidément, ça va être difficile de faire l'émission. J'ai perdu Monsieur Passot. Voilà, Monsieur Passot est de retour. Monsieur Passot, voilà, vous êtes là. Voilà, vous êtes revenu. On disait, Monsieur Passot, que vous aviez fait cet ouvrage et vous disiez qu'il était sous-titré.
Voilà, donc un ouvrage, disons, le titre, c'est « J'ai vu un OVNI », le sous-titre, c'est « Perception et réalité », lequel révèle plus sur le contenu que le titre lui-même.
D'accord. Alors j'aimerais d'abord, Monsieur Passot, puisque vous avez été directeur du GEPAN de 2011 à 2016, hein, c'est bien ça?
Voilà, c'est ça.
J'aimerais d'abord qu'on parle un peu du GEPAN, ce que c'est exactement, comment il a été créé, dans quel but?
Voilà. Alors le GEPAN, c'est une création qui a plus de 40 ans, puisqu'on c'était créé en 77 par le directeur du CNES de l'époque, hein, suite à la suggestion du premier, ce qui a été le premier responsable du GEPAN, qui s'appelle Claude, un ingénieur nommé Claude Poher, qui en fait revenait d'un séjour aux États-Unis où il avait travaillé avec les premiers ufologues scientifiques, Alan Hynek par exemple, pour ne pas le citer. Donc lui-même était très intéressé par le sujet et rêvait d'avoir quelques moyens pour traiter le sujet OVNI de façon scientifique, on va dire. Et non pas avec une approche, je dirais, très émotive, comme le font souvent les médias. Hein, voilà. Donc il a suggéré ça, et c'est arrivé au moment où, en France et ailleurs, le thème OVNI était très à la mode, en particulier avec les émissions de Jean-Claude Bourret, dont certains auditeurs peuvent se rappeler peut-être. Voilà. Et du coup, la décision a été approuvée, y compris par les autres corps d'État comme la gendarmerie nationale ou l'armée de l'air, qui étaient bien contents quelque part qu'un organisme officiel veuille bien s'occuper du sujet OVNI.
Et c'est comme ça donc que le GEPAN a été créé.
C'est comme ça que le GEPAN est né.
Est né, et donc en 40 ans, le GEPAN a recueilli donc des centaines et des milliers de témoignages.
Oui, même des milliers, hein. Oui, des milliers de témoignages. Je pense qu'on doit être à 6000 témoignages, hein, au GEPAN, quelque chose comme ça.
Oui, ce qui est énorme, effectivement. Hein.
Voilà.
J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de ces phénomènes qu'on peut observer dans le ciel. C'est vrai que c'est un peu tentant quand ça nous est tous arrivé comme ça un soir, on sort et tout d'un coup on voit quelque chose dans le ciel de brillant et on se dit c'est pas un avion parce que ça ne clignote pas, c'est bizarre et on serait tenté penser que c'est peut-être quelque chose qui viendrait d'ailleurs. C'est vrai, ça fait toujours rêver.
Et tout à fait, oui. On a toujours la machine à rêve ou la machine à fantasme qui se met en route plus ou moins vite selon le contexte d'ailleurs. Voilà. Et c'est vrai que la liste des témoins, des phénomènes insolites, surprenants dans le ciel est assez longue. J'en parle dans mon bouquin, mais la liste complète est encore plus longue que ça, bien entendu. J'ai pas voulu faire un catalogue, hein, non plus des phénomènes insolites. Mais les plus fréquents, et il y a les l'histoire des lanternes thaïlandaises, hein, vous savez, ces petites montgolfières qu'on lance maintenant la nuit à l'issue des fêtes, des mariages, des célébrations diverses. Vu par les voisins, ça peut être très étonnant. On peut voir une escadrille de points lumineux traverser le ciel en quelques minutes. Donc ça peut donner lieu à des déclarations assez étonnantes. Voilà, il y a ça, même des choses très simples, vous voyez, comme la planète Vénus, lorsqu'elle est bas sur l'horizon, on pense pas tout de suite à un astre, on pense à quelque chose qui survole l'horizon, mais comme ça ne bouge pas, ou alors ça a l'impression de suivre l'observateur, et quelquefois les nuages s'ajoutent, des nuages partiels s'ajoutent au spectacle, et ça peut faire des choses assez étonnantes.
Si par exemple je suis un observateur, je vois quelque chose dans le ciel que je n'arrive pas à m'expliquer, comment je fais ? Je contacte le GEPAN et je donne mon témoignage ?
Voilà, alors en fait la première chose à faire quand on est surpris par quelque chose, c'est de noter sur papier le maximum d'éléments factuels de ce qu'on a observé. Déjà le lieu, l'heure, la direction d'observation, hein, c'était au nord, sud, est, ouest, etc. Ou prendre des repères géographiques. De façon à ce que à fixer tout ça et avoir un témoignage très très précis, quel que soit ce qu'on en fera plus tard. Le premier truc, c'est de figer sur papier un maximum d'éléments factuels. Idéalement, il faudrait aussi fixer la taille apparente du phénomène, ce qu'on appelle taille angulaire, par rapport, par exemple, à la taille de la Lune, par rapport à, sans essayer d'estimer la taille réelle du phénomène, hein, juste la taille apparente, de savoir si c'est juste un point lumineux gros comme une étoile à peu près, ou comme Vénus, ou si on est vraiment sur quelque chose de plus important. Voilà, première chose, noter. Et ensuite, effectivement, là il y a moins d'urgence, prendre contact avec le GEPAN, soit par téléphone, soit par courrier électronique, et idéalement aller faire une déposition en gendarmerie si on est en zone rurale.
Et à partir de là, le GEPAN va faire une enquête.
Voilà, à partir de là, le GEPAN va faire une enquête. Alors, on peut aussi faire soi-même sa propre petite enquête, hein, éventuellement avant ou en même temps de l'enquête du GEPAN, en consultant le site web du GEPAN ou le site web d'associations ufologiques qui font la liste des phénomènes qui peuvent surprendre les témoins. Et voilà. Après, le GEPAN va faire une petite enquête qui se déroule de la façon suivante. On va d'abord effectivement repérer les lieux, la date, et corréler ça avec des possibles événements astronomiques ou aéronautiques ou passage de satellites ou fêtes locales ou des autres choses comme ça. Alors, si le GEPAN trouve quelque chose, bon, il mettra ça comme hypothèse. S'il ne trouve pas, et si le phénomène sort vraiment de l'ordinaire, c'est-à-dire si ce n'est pas juste un point lumineux un peu bizarre, si c'est quelque chose d'un peu plus imposant, le GEPAN va envoyer un enquêteur sur place, un enquêteur privé, indépendant du GEPAN, mais qui a une espèce de contrat.
Détective privé
Avec le GEPAN, oui. Et qui va venir sur place, rencontrer le témoin, si possible sur les lieux de l'observation, et se rendre compte de ce qui a été observé. Alors soit mettre ça en relation avec d'autres événements locaux, soit corréler ça avec des événements plus imposants.
Effectivement, parce que par exemple, voilà un témoignage que je recherche au hasard sur le site du GEPAN, des personnes qui ont dit avoir vu plusieurs lumières se déplacer dans le ciel assez doucement et se rapprocher, s'éloigner pour finir par disparaître. Et finalement, le GEPAN a trouvé l'explication en disant que c'était une fête et que c'était des lanternes thaïlandaises.
Voilà, oui, effectivement, c'est un exemple assez typique de choses comme ça. Voilà. Alors pour ces cas, pour ce type de cas, souvent l'enquête à distance suffit, hein, on arrive, mais quelquefois il faut venir sur place pour éventuellement aller jusqu'à l'investigation complète.
J'ai vu, par exemple, puisque en préparant cette émission, moi, je me suis intéressé sur des événements assez proches de chez moi. J'habite pas très très loin de la base 105 d'Evreux. Et il y a eu, en 1972, un cas où, justement, en plus, ces observations ont été recoupées avec les antennes radar qui ont enregistré ce signal.
Oui. Alors, corrélation avec signaux radar sont très rares. Hein. Ça arrive. Alors, je ne sais pas si le cas dont vous parlez a été expliqué ou s'il reste inexpliqué.
Il reste inexpliqué.
Voilà. Donc, ça fait partie des cas très intéressants, d'ailleurs. Hein, c'est un cas de quelle époque, vous me dites ?
1972.
72, oui. Alors, c'est un cas que je n'ai pas étudié précisément, donc qui a été traité avant moi. Donc ça, c'est effectivement des cas fort intéressants. Donc il a pu s'agir d'objets réels, là, si c'est vraiment s'il y a une bonne corrélation avec les traces radar. Alors soit peut-être des objets réels qui peuvent être par exemple des débris de satellites, hein, qui aussi ça peut être ce genre de choses qui a pu être vu par des radars, soit quelque chose de plus énigmatique peut-être.
Le problème, Xavier Passot, je rappelle que vous êtes auteur, on redonnera les coordonnées de votre livre en fin d'émission, c'est qu'on assimile souvent OVNI égale extraterrestre, ce qui n'est pas du tout le cas.
Alors, bien sûr, beaucoup de personnes font le raccourci, et bien sûr, sur le plan scientifique, c'est une maladresse de faire ce raccourci, parce qu'il y a 40 000 autres possibilités que ça. Moi, quand on perd ses clés, il ne faut pas penser que c'est des extraterrestres qui les ont prises, alors que ça ne serait pas impossible, en toute rigueur. Voilà. Mais bon, quand on perd ses clés, on pense qu'aux extraterrestres. Alors, quand on voit un phénomène lumineux dans le ciel, on y pense tout de suite. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a un imaginaire là, qui nous guide dans cette direction-là. Ça ne veut pas dire qu'on explique tout, hein, dans tout ce qu'on voit dans le ciel. Il y a pas mal de phénomènes qui restent inexpliqués. Donc, s'ils sont expliqués, c'est qu'on ne sait pas du tout leur origine. Bon, on peut penser que c'est des trucs naturels, on peut penser que c'est des objets volants qui sont peut-être furtifs. Diverses hypothèses. L'hypothèse extraterrestre n'étant pas interdite, mais vraiment, il faut la considérer comme la dernière de la liste. Et surtout pas l'hypothèse fourre-tout, comme pouvaient l'être les dieux dans l'Antiquité. Hein. Donc, dès qu'il y avait un phénomène qu'on ne comprenait pas dans l'Antiquité, on disait que c'est les dieux qui font ça. Donc c'était les dieux qui étaient en charge de faire bouger les astres, de faire le vent, de faire les tempêtes, etc. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, faut pas que ce soit l'hypothèse bouge trop, l'hypothèse extraterrestre. Sur le fond, pourquoi pas, hein, voilà, c'est pas interdit d'y penser, mais c'est vraiment la dernière chose à laquelle il faut penser.
Exactement, Xavier Passot, restez avec nous, on va s'interrompre quelques minutes, juste le temps d'une pause musicale, et on revient dans un instant avec vous pour la suite de cette émission à Toi les étoiles, entre chien et loup, et un film ça n'a rien à voir avec l'astronomie, mais que je conseille aux auditeurs, il y a eu déjà 2 millions d'entrées, c'est le film Bohemian Rhapsody qui raconte l'histoire de Queen. On va écouter un extrait justement de Radio Gaga, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98FM.
Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission Entre Chien et Loup, rubrique À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Le thème de cette émission du mois de novembre, OVNI, la vérité n'est pas forcément ailleurs. Et notre invité, qui est Xavier Passot, auteur, qui a écrit un ouvrage d'ailleurs. On redonnera les informations pour se procurer votre livre dans une dizaine de minutes, Xavier Passot. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu des phénomènes qui sont expliqués, puisqu'on parlait juste avant quand même de cette pause musicale, de phénomènes qui sont inexpliqués, mais on est bien d'accord qu'à ce jour, on n'a pas la preuve qu'il y ait une visite d'extraterrestres sur Terre.
Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, si on cherche le cas idéal, c'est-à-dire avec deux témoins indépendants et une photo ou vidéo de bonne qualité, on n'en trouve pas. Voilà. Donc, voilà. Et alors, ma démarche pour passer vers les répondre à votre suggestion d'étudier les cas expliqués, c'est effectivement comme ça qu'il faut aborder le phénomène OVNI, en étudiant aussi bien les cas expliqués que inexpliqués. Et c'est en étudiant les cas expliqués qu'on comprend d'abord par la diversité des phénomènes insolites qu'on peut voir, et qu'on comprend aussi que le témoignage humain n'est pas parfait, malheureusement. Hein. Donc, il y a une marge d'erreur qui est importante dans le témoignage humain, il faut le savoir, et on le juge bien sur les cas expliqués. Alors, on a parlé tout à l'heure des lanternes thaïlandaises. On a, par exemple, des témoins qui, quand ils voient passer un ensemble de lanternes thaïlandaises, imaginent un vaisseau noir, sombre, entouré de ces lumières orangées. C'est une illusion d'optique, hein, qui est bien connue par depuis bien longtemps, hein, on appelle ça l'illusion de contour. Donc là, il faut savoir ces choses-là. Alors ensuite, il y a des phénomènes aussi qui sont rares et qui sont effectivement très spectaculaires. Les rentrées, en particulier les rentrées atmosphériques de météorites, bien sûr, et surtout de débris de fusées ou de satellites qui rentrent dans l'atmosphère, peuvent faire des spectacles absolument effrayants. Hein. Ça peut être très très important en termes de lumière, de couverture du ciel, etc. Et comme les témoins ne peuvent pas estimer la distance du phénomène, on croit souvent que c'est beaucoup plus près que ça n'est en réalité, et on fait une interprétation qui est fausse.
Oui.
Une des clés des observations d'OVNI, c'est que la quasi-totalité des témoins estime une distance au phénomène,
oui.
Ce qu'ils sont en toute objectivité impossible, ils n'ont pas dans la capacité de le faire, même les gens très entraînés comme les pilotes ou gens comme ça, ne peuvent pas estimer la distance, par exemple, d'une météorite lorsqu'elle est en train de traverser l'atmosphère.
Exactement, oui. J'ai fait une émission avec Alain Carillon, qui est collectionneur de météorites, et qui nous disait, des fois, les témoins disent, c'est là, c'est juste derrière la forêt. Mais finalement, non, ça peut être à des centaines de kilomètres de là.
Absolument, oui, tout à fait. Donc, parce que, voilà, il y en a les mêmes illusions dans toutes les rentrées atmosphériques. Alors, il y a des illusions inverses avec ces fameuses lanternes thaïlandaises, qui, elles, sont intrinsèquement peu lumineuses. Et donc, les témoins les pensent beaucoup plus lointaines. Et du coup, plus lointaines, donc plus rapides. Donc, ça ajoute à l'étrangeté. Alors voilà un peu comment ça se passe. Donc, dans tous les témoignages d'observation d'OVNI, toutes les estimations de distance sont a priori fausses. Voilà, et ça, déjà, ça change complètement le paysage. Donc, on ne voit plus du tout les choses de la même façon lorsqu'on a vu ça.
Xavier Passot, vous savez, moi quand j'étais adolescent, j'étais en sixième, je me souviens, j'avais un professeur de physique qui nous a parlé de ces phénomènes OVNI et qui nous disait, il y avait beaucoup de Vernonnais, puisqu'il habitait à Vernon, dans l'Eure, Vernonnais qui, sachant qu'il était professeur de physique, allait le voir et disait, depuis quelque temps, on voit des OVNIs proches de Vernon qui arrivent, qui apparaissent et qui partent soit à droite et soit à gauche. Alors, il s'est rendu sur place et il a pas mis longtemps pour trouver ce qui s'est passé. C'était en 1965, la ligne Paris-Rouen-Le Havre venait d'être électrifiée et pour apporter le courant de traction aux locomotives, on met un fil de cuivre au-dessus de la voie ferrée. Comme la ligne venait d'être électrifiée, le fil de cuivre était très brillant, il y avait une route qui arrivait perpendiculairement à la voie et lorsque la nuit, les voitures arrivaient, les phares allumés, lorsqu'on arrivait au niveau de la voie, la voiture tournait soit à droite et soit à gauche et ça faisait donc une petite forme lumineuse qui partait soit à droite et soit à gauche. C'était simplement le reflet des phares.
J'ai traité un cas de ce genre aussi, c'est avec un reflet sur une antenne de télévision, reflet des éclairages publics sur une antenne de télévision. Effectivement, ils avaient une... Et c'est toujours la même histoire, hein, c'est une mauvaise estimation de distance. C'est quelquefois difficile à investiguer, hein, parce que le cas que vous me dites, il fallait vraiment aller sur place, je pense, pour vraiment comprendre ce qui se passait. Et sur place, à la même heure, même nuit, de nuit, etc., pour investiguer ce genre de choses.
Voilà, c'est exactement ce qu'a fait mon professeur de physique. Il a pris sa voiture et quand il est monté en haut de la colline, il a fait demi-tour et en descendant, il a vu, ben oui, c'est les phares de ma propre voiture, en fait, qui se reflètent.
Et oui, oui, qui se reflètent là-dedans. Oui, c'est un cas très, très intéressant, hein, sur le plan pédagogique. C'est très drôle. Alors, quand, justement, quand un enquêteur s'intéresse à un cas, si la direction d'observation est très précise, on la confronte à ce qu'on voit de jour, par exemple, du même endroit, pour voir avec quoi ça intersecte, quoi. Et c'est comme ça que on peut trouver, par exemple, des lumières qui paraissent être dans le ciel pendant la nuit, mais en fait, c'est des lumières qui sont, par exemple, posées au sommet d'une colline. Mais comme la nuit, on voit pas la colline, la lumière semble être dans le ciel. Hein. Oui. Et à l'inverse, on a aussi des cas d'observation étonnants. Quand vous êtes sur une petite colline en bord de mer, l'horizon, en fait, n'est pas... si vous voulez, vous voyez des choses plus basses que l'horizontale.
Oui.
Donc, l'horizon est plus bas que l'horizontale, donc la mer est plus bas que l'horizontale.
D'accord.
Et donc, si c'est la nuit... si vous voyez si un bateau allumé est donc proche de l'horizon, vous le percevez dans l'espace, dans le ciel. Vous le percevez dans le ciel parce que intuitivement, vous allez penser que l'horizon est bas en fait, hein, alors qu'en fait l'horizon est à la hauteur de vos yeux. Comment expliquer ça à la radio, c'est pas facile. Voilà, faites l'expérience, c'est assez étonnant. Quand on est sur une colline en bord de mer, quand on mesure les angles, en fait, hein, ben il faut baisser les yeux pour voir la mer, quoi. Donc, qui est à l'horizontale et sur la mer. Et donc, de nuit, on a l'impression que les bateaux qu'on peut voir juste sur des nuits noires, hein, qu'il n'y a pas de lune. Les bateaux ont l'air d'être dans le ciel. Enfin, on en voit que des lumières. Hein, mais...
Tout à fait. Xavier Passot, il est presque 17h45. Vous avez un impératif à 18h, donc je vais devoir vous libérer maintenant. Restez avec nous, les auditeurs, puisque dans quelques instants, nous aurons Philippe Morel, qui va nous parler un peu d'actualité astronomique. Alors, on parlera plus d'OVNI, mais on continuera à parler encore pendant une dizaine de minutes pour aller jusqu'à 18h. Auparavant, Xavier Passot, pour conclure cette émission, on va donner les coordonnées de votre livre, comment se le procurer, et puis un mot de la fin pour conclure.
Allons-y. Voilà, donc le livre donc s'appelle « J'ai vu un ovni, perception et réalité ». Donc c'est un livre qu'on repère bien en librairie, qui a un gros caractère jaune sur fond bleu nuit avec un soucoupe volant. Voilà. Vous pouvez vous le procurer directement aux éditions du Cherche Midi, donc vous pouvez commander sur Internet, il est aussi sur Amazon. Et sinon, chez les libraires, il est souvent pas en stock, mais si vous le commandez sous 48 heures, ils sont capables de vous le procurer donc en un délai très court. Voilà.
Merci, Xavier Passot.
Et donc, le mot de la fin, oui. Eh bien, voilà, on l'a dit déjà au cours de l'émission, si vous vous intéressez au sujet OVNI, intéressez-vous aux cas inexpliqués avant d'aborder les cas inexpliqués. Et vous verrez le phénomène d'un tout autre œil. Voilà.
Merci beaucoup, Xavier Passot, pour être intervenu dans cette émission malgré nos petits soucis techniques de début d'émission. À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Au revoir. On va s'interrompre le temps d'une pause musicale, le temps que Philippe Morel arrive et nous parle d'actualité astronomique pour aller jusqu'en fin d'émission à 18h. Vous savez, les auditeurs, je suis un fan de Jean-Michel Jarre et sachez qu'aujourd'hui sort l'album Equinox Infinity, 40 ans jour pour jour après la sortie du premier album. On va écouter le mouvement numéro 1 et puis on se retrouve juste après avec Philippe Morel. À tout de suite sur IDFM. Ça sort aujourd'hui cet extrait du premier album de Jean-Michel Jarre, Equinox Infinity. « Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour la dernière partie de cette émission Entre chiens et loups, rubrique À toi les étoiles. On a changé d'interlocuteur. Nous avons Philippe Morel au téléphone. Bonsoir Philippe Morel.
Oui, bonsoir Franck, bonsoir à tous les auditeurs.
Je me souviens, Philippe Morel, avoir fait avec vous, dans le cadre des émissions de la Formule de l'été, une émission à l'Observatoire de Charles Fehrenbach. Et j'ai envie de dire, comment ça se passe à l'Observatoire ?
Oh, ça se passe très bien, puisque nous sommes en train d'installer les fondations de 6 coupoles, et la première va être montée dans les prochains jours. D'ailleurs, ce sera normalement pour la fin du montage de la première, pour la journée du 8 décembre, qui est une journée d'astro-imagerie, qui est ouverte bien sûr aux gens qui font des images, mais aussi à toutes les personnes qui s'intéressent à l'observation du ciel en particulier, puisque l'observatoire est situé dans une zone qui est particulièrement privilégiée en la matière. Et en fait, ce sera aussi le moment où la comète Virtanen sera au mieux de sa visibilité. Alors cette comète, qui est une toute petite comète de rien du tout, dont le noyau fait à peine 2 km, c'est une comète qui a été choisie initialement pour être la cible de la mission Rosetta, avant que la mission ne soit retardée et donc détournée sur la comète Churyumov-Gerasimenko. Alors cette comète a été découverte le 17 janvier 1948 par un monsieur qui s'appelait Virtanen, évidemment. Elle va passer au périgée, donc au plus près de la Terre, le 12 décembre à 11 millions de kilomètres seulement. Et elle va passer quelques jours plus tard au plus près du Soleil, donc le 17 décembre, donc à une distance qui sera à peu près celle de la Terre au Soleil. Et la Terre va se trouver à peu près entre le Soleil et la comète. Ça veut dire qu'elle sera au plus près de la Terre, au plus près du Soleil, et nous on l'aura en pleine nuit, et en plus de cela dans un ciel sans lune.
Donc des conditions excellentes pour l'observation, excellent. Philippe Morel.
Elles sont vraiment excellentes, d'autant plus que les prévisionnistes ont tiré des plans sur la comète, ce qui est le cas de le dire. Et pour l'instant, c'est l'estimation d'évolution la plus favorable qui est en train d'être réalisée, ce qui fait que si la comète continue à tenir ses promesses, elle aura une magnitude d'environ 3,8 donc dans ces jours-là, donc vers le 9, 10, 11, 12 décembre, ce qui veut dire qu'elle sera largement visible à l'œil nu dans des endroits où le ciel n'est pas pollué.
Philippe Morel, je voudrais qu'on explique pour les auditeurs la magnitude, donc
alors,
c'est la brillance.
La magnitude, c'est une échelle de brillance qui existe depuis fort longtemps, puisqu'en fait, les astronomes anciens ont qualifié l'éclat des étoiles dans un grade, on va dire, de 0 jusqu'à 6 pour les étoiles visibles à l'œil nu. Et cette échelle a été modélisée ensuite par un autre astronome du 19e siècle qui s'appelait Pogson, et qui a trouvé qu'entre 2 grades de magnitude, il y avait une différence de brillance d'environ d'un facteur 2,5. Et c'est cette échelle qui sert toujours actuellement pour faire qualifier la brillance des objets, que ce soit des objets ponctuels ou des objets étendus, à ceci près que les objets étendus, comme la nébuleuse de la Lyre par exemple, ou n'importe quel objet du ciel profond, c'est en fait l'éclat de l'ensemble de la surface de l'objet, de la surface apparente de l'objet, ramené à un point.
D'accord.
Et ça, c'est très très important parce que ça nous permet, vous avez des pièges classiques, par exemple, si vous prenez la nébuleuse Hélix dans la constellation du Verseau, sur catalogue, elle est de magnitude 7,3, et elle est très très difficile à voir avec des petits télescopes, et il faut un ciel très très pur pour la voir. Pourquoi ? Parce qu'elle fait un diamètre à peu près celui de la pleine lune, voire un petit peu plus, ce qui fait que même si elle est de magnitude 7,3, donc normalement accessible avec des petites paires de jumelles ou des petits instruments, le fait est que comme elle est très étendue, ça fait un objet qui est très difficilement perceptible, parce que la brillance par unité de surface dans le champ de l'oculaire du télescope, elle est faible.
Philippe Morel, pour se donner une idée, 3,5, ça correspond à quoi en comparant avec la clarté de la Lune ?
La Lune, elle est à moins 12.
Ah oui, c'est énorme.
La Lune, c'est beaucoup plus brillant, c'est infiniment plus brillant. La pleine Lune est à moins 12. 3,5, ça correspond à un niveau moyen des étoiles visibles à l'œil nu à la campagne.
Donc, facilement visible à l'œil nu.
Visible. Donc nous, en marge de cette réunion d'astro-imagerie qui va se tenir le 8, on organise bien sûr 2 nuits d'observation en fonction de la météo, évidemment. celle du 7 au 8 et celle du 8 au 9, où là, on va ouvrir au public pour montrer cette comète et puis plein d'autres choses aussi, parce qu'elle ne sera pas toute seule dans le ciel. Il y en a une autre qui est assez belle au télescope actuellement, c'est la comète Swift-Gerrels, entre autres, et il y en a d'autres, et on ne va pas montrer que des comètes, évidemment.
Philippe Morel, on me demande sur Internet où se trouve exactement l'observatoire Charles Fehrenbach.
Alors, l'observatoire Charles Fehrenbach se situe à 6 km au sud d'un village que tout le monde connaît, le village de Maroilles. C'est dans les Hauts-de-France.
Oui.
Situé à environ 70 km de Lille. C'est à 50 km au sud-est de Valenciennes et 50 km à l'est de Cambrai. C'était à la sortie du village, pas très loin de la route d'Avesnes-sur-Helpe. De toute façon, les coordonnées, vous les avez sur le site de l'Observatoire, qui est facile à trouver. Vous tapez sur Google OBSCF et vous tombez en premier dessus. Et là, vous pourrez vous balader, avoir bien sûr l'éphéméride, les renseignements sur l'observation de la comète Virtanen, mais aussi sur l'observation d'une autre comète qui est visible ces jours-ci et qui ne sera pas visible très longtemps. C'est la comète donc qui a été découverte par Donald Maccols le 7 novembre. C'est la comète Maccols Fujikawa Iwamoto. Alors Donald Maccols, c'est quelqu'un qui est très tenace parce que c'est sa 12e découverte de comète et lui n'observe que visuellement. Et c'est très très difficile actuellement de découvrir une comète visuellement puisque vous savez qu'il y a des programmes de surveillance d'astéroïdes, de comètes automatisés qui ramassent toutes les comètes de très très faible magnitude, donc de très très haute magnitude, donc d'éclat très faible. Et Maccols, lui, donc balaye les zones de crépuscule avant le lever du soleil ou après le coucher du soleil. Et là, il a trouvé, au bout de 746 heures de recherche, donc cette comète, 746 heures depuis sa dernière découverte en 2010. Alors cette comète, elle est visible ici en toute fin de nuit, puisque c'est une comète qui n'est pas très bien placée par rapport à la Terre. Elle va passer au périhélie le 3 décembre, à 58 millions de kilomètres du Soleil, et elle va passer au plus près de la Terre le 27 décembre, à 100 millions de kilomètres de la Terre, c'est-à-dire qu'on est très mal placé par rapport à cette comète. Néanmoins, on peut la voir ici ces jours-ci, sauf en l'absence de brouillard, parce que je suppose qu'en Île-de-France, vous êtes logé à la même enseigne que chez nous ici.
Exactement.
Voilà, donc, et paraît-il que le brouillard va se lever. Et en fait, elle se lève actuellement vers 3h30 du matin en temps universel, donc vers 4h30 du matin. Il faut la laisser monter d'une dizaine de degrés, puisque ensuite il y a le jour qui apparaît. Donc actuellement, c'est une comète qui est basse sur l'horizon, qui est dans la constellation de la Vierge, et qui, dans les prochains jours, devrait être à peu près de 8e magnitude, donc devrait être accessible aux jumelles. C'est surtout une comète intéressante parce qu'elle a été découverte par un de nos amis astronomes amateurs et que c'est exceptionnel maintenant que ce soit encore possible autrement qu'avec des moyens CCD.
D'accord, eh bien voilà pour ces petits agendas. Merci en tout cas Philippe Morel d'être intervenu en cette fin d'émission puisqu'il nous restait un petit peu de temps. Après cette émission, on a parlé des ovnis. Vous n'avez jamais vu d'ovnis ou de phénomènes non expliqués
Si, j'en ai déjà observé.
Oui.
Mais de là affirmer que ce sont des objets, c'est une première question. De là affirmer qu'ils sont volants, c'est une deuxième question. Une chose est sûre, c'est qu'ils sont non identifiés. Maintenant, des phénomènes lumineux, on en voit. Mais il y a tellement de possibilités d'avoir des phénomènes lumineux, ne serait-ce que avec les phénomènes de réflexion dans les instruments astronomiques, surtout les instruments réflecteurs. Ensuite, des phénomènes atmosphériques de haute altitude, il y a des quantités de spectres qu'on peut voir, mais qui sont pas forcément des choses auxquelles on peut donner une origine, donc assurément extraterrestre. Maintenant, peut-être que, pourquoi pas.
Eh oui, tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, à Xavier Passot d'être intervenu auparavant, et puis à vous, bien sûr, Philippe Morel, d'être intervenu, de nous faire ce petit agenda astronomique. Donc, avis aux amateurs, hein, ça peut se faire. Moi, j'habite région parisienne, on y est rapidement. Hein, on peut faire l'aller-retour dans la journée. On refera une émission, d'ailleurs, à Toi les étoiles, formule de l'été, quand les six coupoles seront inaugurées, Philippe Morel.
Vous savez, elles vont être inaugurées les unes après les autres. La dernière, celle qui sera inaugurée le plus tardivement, malheureusement, parce qu'il faut un budget pour l'établir, c'est l'ancienne coupole de Pierre Bourges de 1956, qui va être réinstallée sur le site de l'Observatoire, avec le télescope qui l'abritait, qui était un 400 mm de diamètre ouvert à FD3.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Morel. On en reparlera.
D'accord.
En tout cas, une dernière chose aussi. aussi à noter dans vos agendas. Le lundi 26 novembre à 17h, Easy Night atterrit sur Mars. Donc rendez-vous à la Cité des Sciences et de l'Industrie à partir de 17h. Il y aura une conférence et vous pourrez suivre l'atterrissage commenté par Gilles Davidowitch. Voilà, merci à tous. Rendez-vous le mois prochain. On parlera des 50 ans d'Apollo 8. Sur ce, vous retrouvez la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin et on se donne rendez-vous le deuxième vendredi du mois pour la prochaine émission à toute vapeur. On parlera des 80 ans de la SNCF et donc, je viens de vous le dire, les 50 ans d'Apollo 8 une semaine après. Au revoir à tous et merci pour votre fidélité.